ce que nous avons peur des livres nous proposent des secrets pour nous. Peut-être pas du jour de notre enfance que nous ayons si pleinement vécu que ce que nous avons cru laisser sans les livres, ce que nous avons passé avec un livre préféré, tout ce qui semblait-il les remplissait pour les autres, et que nous étendions comme un obstacle au vulgaire à un plaisir divin, le jeu pour lequel un ami venait nous chercher au passage le plus intéressant, l'abeille ou le rayon de soleil gênant qui nous forçait à lever les yeux de la page ou à changer de place, les provisions de côté qu'on nous a fait emporter et que nous laissons à côté de nous sur le banc sans y toucher, tandis que, au-dessus de notre tête, le soleil diminuait de force dans le ciel bleu. Le dîner pour lequel il avait fallu rentrer et où nous ne pensions qu'à monter finir tout de suite après le chapitre interrompu. Tout cela dont la lecture aurait dû nous empêcher de percevoir autre chose que l'importunité. Elle engravait au contraire en nous un souvenir tellement doux, tellement plus précieux à notre jugement actuel que ce que nous lisions alors avec tant d'amour, que s'il nous arrive encore aujourd'hui de feuilleter ce livre de notre foi, ce n'est plus que comme les seuls calendriers que nous ayons gardé des jours enfuis et avec l'espoir de voir refléter sur leur page les demeures et les étangs qui n'existent plus. Extrait de Marcel Proust sur la lecture, texte paru en préface à la traduction par pause du livre de John Ruskin, Sésame et les Lys en 1906. Une façon pour nous de vous dire que nous vivons avec et dans les livres, car les livres que nous avons lus nous bercent et nous accompagnent durant toute notre existence. À la technique, Williams Joseph, présentation de l'ensemble de ses frères et Weber Charles, place à Weber Charles, que je salue, bonsoir Weber. Bonsoir à la mission, bonsoir à tous les auditeurs de la cité, bonsoir à Williams. Bonsoir Mélie Pierre.
Bonsoir petit frère, bonsoir Robert, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de Vivre le Feu.
Comme vous le savez, tous les dimanches à Vivre le Feu, nous vous apportons deux publics. D'abord, à ce livre qui vous sera présenté par Robert Charles. C'est le micro rapidement de Bertrand.
Bonsoir à tout le monde. Et dans cette édition d'actualité, je vous parlerai de son voyage de l'arbre de naissance et le roman de l'histoire se déroulera à Port-au-Prince. C'est autour de la talentueuse romancière française d'origine guadeloupéenne, Gisèle Combé et Gisèle Pinot, l'auteur d'une œuvre dense, riche et ambivalente, de mouiller l'encre blanche avec la pâte et avec la peau, dans nos eaux merveilleuses pour accéder au paysage de la France sombre et brillant d'Haïti. Mais à Paris, en 1956, le père de l'univers guadeloupéen, Gisèle Pinot, a passé son enfance dans les quartiers parisiens, puis avoir besoin des études de lettres à l'Université de Montréal. Elle s'inscrit en psychiatrie et devient infirmière, une carrière qu'elle mènera en Guadeloupe, la terre de ses parents parallèlement à ses activités de romancière. Alors, en 1993, elle publie son premier roman, La Grande Grille des Esprits, qui a été reçu avec enthousiasme au recevoir moins d'un an après sa publication, à la fois le grand prix d'électrice du magazine Elle et le prix Carnet de la Caraïbe et du tout le monde. Retraité de bonheur du centre hospitalier de Saint-Claude, mais elle a fait paraître son dernier roman chez Mercure de France en 2012, sur le titre très évocateur de Sans vie et des poussières, roman qui raconte l'histoire de Gina Beauvoir, une Guadeloupéenne qui attend son 8e enfant. Et elle est intervenue au micro de France Culture en 2012 à l'émission Le Livre du Jour. Elle affirme que ce roman est une manière pour moi, je cite, de rencontrer la jeunesse de la Guadeloupe et de lui dire « Prenez votre destin en main ». Alors, l'auteur de l'Espérance Matanière, qui intervenait à l'émission La Carnet des Livres, fait ce vendredi 4 avril, sur Magique 9, a précisé qu'elle travaille sur son dernier roman, et ceci explique sa visite en réalité. Pourtant, ce n'est pas sa première visite. Elle est déjà venue en réalité dans le cadre du festival Les Grands Voyageurs. Et le dimanche 5 avril, elle sera elle vient de faire une intervention au Centre-Père au numéro 10, où elle se réunit à Thomas Saint-Prenne, au Centre-Père, qui est un centre devenu un véritable pôle d'attraction pour les auteurs de Thomas Saint, qui accueille des écrivains venus des quatre coins du monde, afin de passer de l'écrivain favori, Sofiane Badawi, auteur de La Rage entre les mains, et un décrit pour le moment, en décembre 2013, des écrivains américains ont été cités à la traversée américaine. C'est une forme de lettres remarquable, que le centre soit en son début d'avril. Une talentueuse écrivaine, Gisèle Pinot, est dans le lieu depuis le lundi 31 mars 2014, lundi, autour de l'alphabet des mots. Je vous parle de Jacques Fenn, c'est président du Centre Pen Haïti. Alors, retrouvez également ce même article dans la revue d'égalité nature sur le dernier roman de Gisèle Pinot, L'Espérance Notre-Dame, qui conclut de cette façon l'article de Paul Bastiris, qui dit que Gisèle Pinot offre un espoir pour le fin du système oppressif et le commencement d'un nouvel ordre. Alors voilà ce que nous avons écrit de son acte-livre et de l'instant de vous, bien évidemment, pour la suite. Je rappelle que Gisèle Pinot est l'objet d'un article signé et connu d'Astikis dans le troisième numéro de la revue La Littérature consacrée à la thématique suivante, dictature, révolte et écriture féminine. Le titre de l'article, c'est « L'enroulage féminin du système érotique du néocolonialisme des trois romans de femmes antillaises » Donc, article signé Corinne Tachtinis, qui fait des études de postdoctorale en traductologie à Hampshire College dans le Massachusetts. Elle a un doctorat en littérature comparée de l'Université de Michigan et elle s'intéresse à la littérature mondiale, en particulier la littérature d'Haïti et la littérature tchèque. Place à présent à Myriam Pierre pour sa rubrique Le Livre de la Semaine.
Bonjour, bonsoir à tous. Ce soir, le Livre de la Semaine va déposer ses bagages sur le territoire américain pour vous présenter un auteur et un titre. Cet auteur est Philippe Roth. Philippe Roth est né le 19 mars 1933 dans le New Jersey aux États-Unis et il vit dans le Connecticut. Philippe Roth est romancier. National Book Award pour Ado, mis en 1960 et 1965, Michel Scarta en 2001, puis International Men Booker en 2011, puis Presse des Antilles en 2012, et en dernier lieu, il a reçu au grade du commandant de la Légion d'honneur en 2013. A écrit un recueil de nouvelles qui aboutit au bain de la base en 1962. Classique de roman, là, l'auteur se termine le premier cycle, David Kespers le deuxième cycle, le troisième, Ménésis, dans lequel on trouve des romans comme Un homme, publié en 2007, Exilation en 2008, Le rabaissement en 2011 et Ménésis en 2012. Des essais comme Les faits, autobiographie de romancier en 1990, Patrimoine, une histoire vraie en 1992 et Un fait par le travail en 2004. Maintenant, je vais vous faire la présentation du roman Indignation. Ce roman a été publié pour la première fois en 2008 et réédité aux éditions d'Animal en 2010 dans la collection Folio. Il a été traduit de l'américain par Marie-Claire Pasquier. Le livre compte 237 pages et est divisé en deux grands chapitres et en petites sous-morphines, soit le premier chapitre, le deuxième de l'autre côté. En fait, l'indignation raconte l'histoire d'un jeune adulte, Marcus Messner, dans les années 1951, soit la deuxième année de la guerre du Corée. Marcus Messner quitte sa maison familiale et abandonne ses études à Loyola University. Échapper à l'emprise de son père. Un père qui le considère comme un enfant. Un père aussi qui ne veut pas lui laisser jouer les plaisirs de la liberté. De l'autre côté, Marcus peut affronter la vie à lui seul, même si apparemment tout semble compliqué ou confus dans cette aventure. Voilà en gros le résumé de l'indignation de Philippe Roth. Et c'est ici s'achève la rubrique de livre de la semaine. Rendez-vous dimanche prochain pour une autre édition.
La création littéraire haïtienne a connu ces dernières années, précisément en ce début du XXIe siècle, des bons extraordinaires. Chaque année, le nombre de livres, le nombre de titres disponibles, par exemple un livre à fond, la plus grande foire du livre en Haïti dépasse la centaine. Parmi les livres, parmi ces livres, plus d'une trentaine sont pour la plupart du temps des textes littéraires. De la poésie, du roman, des nouvelles et même des pièces. fausses fenêtres utiles aux discours qui parlent pour ne rien dire. Il n'y a pas de raison que l'écrivain ne prenne pas pour sujet, personnage, un autre vivant, une autre œuvre, plutôt que la première histoire venue et le premier passant qui passe, et qu'il ne tient pas de cette matière une grande œuvre d'art. Il y a même beaucoup de chance pour Catalan et Gall, l'auteur qui écrit sur le caractère de Pascal, l'œuvre de Stendhal, ou le destin de Biron, nous donne un livre plus intéressant que celui qui raconte les rêves de poissonneurs de billets ou les aventures d'un cordonnier. Ce qui n'interdit pas de faire marcher d'œuvre avec la vie d'un cordonnier ou même avec les songes d'un poissonneur de billets. Seulement, c'est plus facile avec Pascal. Philosophe de formation et juriste également, coordonnateur général de l'association culturelle Café Philo, un espace de réflexion et de débat sur l'état de la philosophie en Haïti. Ralph Jean-Baptiste est un lecteur assidu, grand consommateur de littérature. Il nous entretient de la société autour de la problématique de la critique littéraire en Haïti. Bonsoir, Ralph Jean-Baptiste, c'est avec immense plaisir.
Bonsoir, petit frère de l'Armesson. Bonsoir également à Robert Chaval. Bonsoir, Marine Pierre. C'est un plaisir pour moi de répondre à votre invitation pour l'émission Livre Neuf.
Eh bien, le décor va planter. Il est là. Et si tu permets, Ralph, juste avant, on va parler de la critique littéraire. Il serait intéressant à ce que nous situions, à ce que nous disons de quoi exactement nous parlons quand on dit critique littéraire. Moi, je vais faire appel à trois compagnons dans le démon de la théorie et dans l'introduction du démon de la théorie. Il dit ceci, et je cite: par critique littéraire, j'entends un discours sur les œuvres littéraires qui met l'accent sur l'expérience de la lecture, qui décrit, interprète, évalue le sens et le fait que les œuvres ont sur les bons lecteurs, mais sur des lecteurs qui ne sont pas nécessairement savants ni professionnels. La critique apprécie, elle juge, elle procède par sympathie ou antipathie, par identification et projection. Son lieu idéal est le salon de la presse est un avatar, non l'université, et sa forme première est la conversation. Comment est, d'après toi, Ralph, si je devais te poser la toute première question à l'émission ce soir, comment à ton avis se porte aujourd'hui la critique littéraire en Haïti?
Je voudrais d'abord dire que choisissant de répondre à votre invitation, j'ai tout de suite compris que je me suis installé dans une quiz qui s'explique par le fait, ou à la limite un paradoxe, qui s'explique par le fait que lorsque je n'ai jamais écrit quoi que ce soit qui serait de moi un écrivain, ou à la limite un critique littéraire, je suis tout de même invité à en dire quelque chose, puisque la critique littéraire, comme on le dit souvent, intervient sur la littérature, c'est un discours de surplomb sur la littérature. Parler donc de celui-là, si après tout il est possible de le faire, parler donc de celui-là, l'inscrit dans une perspective, dans une démarche qui aurait tendance à faire de moi, à me placer dans le sillage des gens qui pourraient avoir quelque chose à dire en tant qu'auteur, en tant que lecteur, etc. Alors, pour moi, il y a déjà le fait que c'est difficile de parler de quelque chose qui s'appelle la critique littéraire, encore moins de parler de la critique littéraire selon qu'elle serait haïtienne, c'est-à-dire une manière de juger les textes littéraires haïtiens, ou une critique littéraire qui parlerait, qui jugerait les textes des auteurs littéraires américains, français, tout ce que vous voulez. Moi, je ne sais pas si c'est peut-être possible de m'aventurer. l'histoire, c'est toujours quelque chose que l'on rencontre au moment où on s'y attend le moins. C'est déjà ça mon rapport avec un esquimal. C'est cette position, cette considération à laquelle je tiens beaucoup, qui me place, si on peut le dire, dans une perspective de quelqu'un pour qui l'art serait, comme le dit, une bataille, au point que Jean-Paul Sartre disait de lui qu'il était le nouveau mystique. L'art, c'est quelque chose qui ne sert à rien. L'art, c'est la futilité. L'art, c'est quelque chose sur lequel, évidemment, on n'a aucune prise. Après, il y a l'émotion, il y a le fait qu'il y a toujours quelque chose qui nous saisit par la gorge, qui nous prend et qui essaie de nous faire voir autre chose. Et comme nous n'aurions jamais pu l'imaginer. Alors, sur la critique littéraire en Haïti, je veux croire que, au-delà de ce débroussaillement théorique auquel j'en appelais, si je peux le dire tout à l'heure, je crois qu'il y a lieu de se poser un certain nombre de questions. Depuis environ une dizaine d'années, il y a énormément de textes, il y a une production foisonnante, abondante de textes littéraires haïtiens, il y a de nouveaux auteurs, il y a notamment des jeunes auteurs, entre guillemets, vous savez très bien que c'est une question qui fait problème dans le milieu littéraire aussi. Il y a des auteurs qui émergent. Il me semble simplement qu'il est difficile de parler de critique littéraire en Haïti dans la mesure où le critique est toujours quelque part un écrivain, quelqu'un qui est lié d'amitié avec d'autres écrivains et qui essaie de dire des choses sur ce que font ces écrivains et qui ne correspond pas toujours aux attentes des lecteurs ou à ce qui peut être vu.
Tu sais, à ce moment-là, tu dis que généralement, le critique littéraire, c'est un écrivain. C'est la raison pour laquelle les critiques, il écrit.
Absolument, écrivain au sens littéraire du terme. Vous savez qu'il y a une différence entre écrivain et auteur. Ou encore, si vous voulez, entre chercheur, essayiste, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui produit, qui est censé être en mesure de produire de la littérature, de faire de la littérature.
Donc, les critiques, c'est à côté, et c'est non seulement quelqu'un qui produit de la littérature, mais qui a de la création, et en même temps, qui produit un discours sur l'intellectuel.
C'est ça que tu veux dire? Non, on peut le voir ici, mais par rapport à la question que tu viens de poser, j'essaie de répondre en disant qu'ici, on a du mal à parler de critique littéraire dans la mesure où il n'y a pas suffisamment de distance entre le lecteur et le critique, dans la mesure où, quelque part, le critique littéraire, l'individu qui a critique littéraire en Haïti, il est toujours ami avec le lecteur. Il essaie de tenter de proposer quelque chose de l'écrivain qui serait qu'il est original et qui, pratiquement, l'inscrit dans un régime de discursivité où ce qui prime le plus, ce soit l'amitié, soit le bon copinage ou autre chose, c'est-à-dire les autres bases historiques que nous connaissons tous.
Est-ce que là, mais est-ce que c'est mauvais? Parce que je l'ai lu tout à l'heure, l'extrait de Trois Compagnons dans avait souligné que le discours du critique, ça peut être un discours qui peut être dans une certaine mesure soit sympathique ou antipathique.
Absolument, mais sauf ce qu'il faut comprendre avec cette référence que tu viens de faire en train de comprendre, c'est le fait que le critique ici, c'est essentiellement quelqu'un qui est sympathique ou qui ne l'est pas, qui est antipathique dans la mesure où il dit ce qu'il pense de l'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de sentiment personnel qu'il priorise dans son rapport à l'œuvre. Pour lui, l'important, c'est de pouvoir dire ce qui va de soi dans l'œuvre, ce dont on peut parler de façon originale, ce qui faut vraiment. À contrario du critique littéraire en Haïti, dans la mesure où ce critique littéraire, c'est toujours quelque part à la fois l'écrivain et le critique qu'il est, et la plupart du temps, quelqu'un qui est. Qui développe des rapports avec un écrivain, avec d'autres les écrivains, et qui essaie toujours de leur faire plaisir, de dire des choses sur ce qu'ils font, et qui, au fond, ne correspond en aucun cas à ce qui est écrit, à ce qui est dit, comme on pourrait juger un texte littéraire.
Oui, voilà, je me dis, je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il existe une complicité quelque part entre le critique et l'écrivain. Et je suis également d'accord que le critique est un écrivain, puisque ce sont des grands critiques littéraires français, et ont été des écrivains,
même si, par exemple, même si ils ont été d'autres.
Saint-Paul, qui dit que il existe un tout petit côté littéraire et puissant. Et on a des exemples dans la littérature. Le meilleur écrivain du monde aurait été au Lombard de Jean-Paul Sartre. Et entre un compagnon, Maurice Blanchot, mais c'est pas ça, ce sont des critiques littéraires qui ont certes produit une œuvre de création, mais j'ai envie de te demander un. Si le critique a son discours sur la littérature, qu'on lise ou qu'on juge, interprète la littérature, pourquoi il ne peut pas produire?
Alors, revenons à la case départ, c'est-à-dire à ce que j'essayais de poser comme balise théorique, si l'on peut dire avant. À mon avis, il n'est pas du tout évident que l'on puisse distinguer le travail de critique de celui d'un écrivain, dans la mesure où il faut suffisamment de temps, il faut suffisamment de compréhension, de recul pour comprendre qu'il peut se faire qu'à un moment donné, le travail du critique devient une œuvre littéraire à proprement parler, c'est-à-dire que l'on dessert dans ce travail de production. Là, c'est dit sur Michel Foucault, par exemple, qui est philosophe, que Foucault a un style qui est très littéraire, il aurait fait un très bon écrivain. Et le concept de Proust, c'est-à-dire que vous tombez sur des gens pour qui le souci le plus important, c'est de faire de la critique. Mais en même temps, ce sont des gens qui ont du mal à digérer le fait qu'ils ont certaines limites qui font qu'ils ne peuvent pas être ce qu'ils auraient aimé être, faire de leur vie, devenir par exemple écrivain. Ce qui a d'intéressant dans cette perspective, c'est toujours le débat dans le livre. Lionel Trouillot et Pierre-Alain a fait d'ailleurs un livre que j'ai réussi une traversée littéraire, je trouve d'une très bonne qualité en termes de réflexion, en termes de
réflexion factuelle.
Très bonne facture sur la littérature haïtienne. C'est un livre dans lequel cette question est posée par Yves Gémard qui essaie de montrer qu'il y a un rapport compliqué entre l'écrivain et le critique. Le critique essaie toujours de catégoriser, de camper l'écrivain. Il a pris par exemple le cas d'un critique qui parlerait de l'écrivain haïtien en usant de cette catégorie la personnalité, au sens psychologique du terme, la personnalité de l'écrivain haïtien. Comment on peut saisir cette personnalité? Quoi qu'il y aurait une personnalité chez l'écrivain haïtien, etc. Donc je crois qu'il y a effectivement ça. Mais il y a surtout le fait que le critique est quelque part dans une sorte de cristallisation avec le travail de l'écrivain. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut prendre par moment une certaine distance et réaliser que ce que l'écrivain a fait comme travail, il aurait pu le faire. Mais c'est le double de cette année. C'est-à-dire comme si c'est retrouvé. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais assez quand on est critique et quand on n'est pas. C'est-à-dire quand on est écrivain. Le critique est toujours quelque part déjà dans l'œuvre. Il est toujours exclu dans l'œuvre. Ne serait-ce qu'avec l'écrivain, il y a un double de l'écrivain. Quand tu parlais un peu de ça, Weber, de la figure du double, il y a déjà ça chez l'écrivain. C'est quelqu'un qui a, à la limite, un jugement sur ce qu'il fait. Moi, je connais des gens, moi, je m'amuse tout le temps à le faire, qui écrivent presque quotidiennement et qui s'amusent à effacer. Vous voyez, qui effacent tout ce qu'ils ont écrit. Ou qui les déchirent. Ou qui font semblant qu'ils n'avaient jamais rien écrit. Moi, j'aime cette perspective d'abandon, de délaissement, comme si l'écriture ne valait pas la peine. Pour moi, il ne faut pas que quelque chose devienne trop important que le fait qu'on ne peut avoir de rapport avec la vie, et notamment avec les beaux-arts en particulier. Malheureusement, dans ce pays, on ne parle pas assez des beaux-arts, on ne parle pas assez de théorie sur l'art et de théorie de la littérature, ce qui fait que l'écrivain a tendance à considérer que dès qu'il est un écrivain, c'est comme s'il était un sociologue. Tout écrivain ici est toujours quelque part révolutionnaire, c'est quelqu'un qui veut chercher
la littérature.
J'en suis encore à me demander, nom de Dieu, comment peut-on dire, comment peut-on faire quelque chose quand on est dans l'art? Même pas quand on fait de l'art, mais quand on est dans l'art. Je crois que l'on est comme un peu saisi par quelque chose qui nous dépasse et que l'on saurait être quelqu'un qui s'engage dans la littérature, par exemple, en prétendant dire quelque chose. C'est une bêtise que depuis les structuralistes, depuis l'avancée prodigieuse de la linguistique qui s'est constituée comme science, on en soit venu à parler de la littérature comme un lieu où il serait question de dire des choses. Je n'ai jamais entendu bêtise plus grande que celle-là.
c'est Barthes qui dit que la littérature, c'est ce qui s'enseigne. La phrase, c'est tout.
Absolument. Mais moi, personnellement, simplement pour peut-être compléter, moi, je n'aime pas du tout Barthes. J'aime son travail, mais la perspective de Barthes n'est pas la mienne. Moi, je me retrouve de préférence dans la perspective de Proust qui disait la vraie vie, la vie réellement vécue, la vie dans un autre vécu, c'est la littérature. C'est-à-dire que c'est cette vie qui nous échappe et vers laquelle nous tendons au fur et à mesure.
Et la littérature, elle nous échappe. Donc, on revient à la dernière question.
Jean-Baptiste, selon vous, en quoi consiste le travail effectivement du critique ou de critique?
Bon, déjà, pour moi, la perspective du critique, en tant qu'il serait quelqu'un pour qui ce qui importe le plus, et c'est dans ce domaine qu'il se réaliserait, que son travail existerait, la perspective du critique selon laquelle il s'agirait de quelqu'un qui essaie de lire, de travailler pour les autres qui n'ont pas eu suffisamment le temps de lire, qui essaie de déceler les vérités, les choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu ou au premier regard ou à la première lecture. Moi, je trouve que c'est une perspective avec laquelle il faut prendre énormément de distance, dans la mesure où le critique, lui, quelque part, est dans une position où il se demande si ce qu'il est en train de faire correspond effectivement à ce dont il est question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez de plus en plus de gens qui se disent critiques pour la perspective, parce que c'est peut-être mieux de se dire critique littéraire, mais qui ne prennent pas suffisamment de temps pour comprendre qu'il y a des textes pour lesquels le critique n'est en aucun cas mobilisé. C'est-à-dire que, et là je pense un peu à un ami qui est également écrivain, qui a déjà passé à cette émission, Jean-Bénie Mondésir, pour qui le critique ne vaut vraiment pas la peine. C'est-à-dire pour Jean-Bénie, le critique est une gratuité, ne rend aucun service à la littérature. Je pense par exemple à un texte de Kafka qui s'appelle Pas derrière le mur, bon, le titre m'échappe, ça me reviendra, j'espère. Un texte où Kafka, devant la mort, voilà. Devant la mort, qui est un texte où Kafka essaie de présenter un individu à qui un jour cette question s'est posée. Puisque Dieu existe, pourquoi je ne tente pas à me rapprocher de lui? Et il prend le chemin qui mène vers Dieu, et là, il tombe sur les brigades du corps de Dieu. Il est là. Toute sa vie va se dérouler dans cette atmosphère où il essaie de se quereller contre les autres, les gardes du corps, qui lui refusent d'entrer. Et puisqu'il est entre-temps devenu âgé, à un moment donné, il se pose cette question. Pourquoi suis-je le seul à vouloir entrer au paradis? Et les gardes du corps lui ont répondu, vous êtes le seul à vous poser cette question.
Mais Alfred, pour illustrer ce que la critique peut dire, pour illustrer, mais je pense que parfois c'est la critique a du mal à cerner l'œuvre. La critique perd son objectif. Là, je vais vous lire un petit extrait de l'espèce littéraire de Maurice Blanchot, un texte que j'admire, que je lis assez souvent. Et Blanchot dit concernant ce que dit l'œuvre, que l'œuvre, c'est-à-dire l'œuvre d'art et l'œuvre littéraire, n'est ni achevée ni inachevée. Elle est. Ce qu'elle dit, c'est exclusivement cela qu'elle est, et rien de plus. En dehors de cela, elle n'est rien. Qui veut lui faire exprimer davantage ne trouve rien, prouve qu'elle n'exprime rien. Alors, c'est l'objectif de la critique que passe totalement à côté. Si elle veut faire parler l'œuvre, que l'œuvre n'est que silence,
par exemple, et je crois que fondamentalement, il y a deux œuvres d'art, il y a deux œuvres littéraires. Il y a de littérature à proprement parler, qu'à partir du moment où il y a une proposition esthétique, nouvelle en plus, qui nous oblige à repenser notre cadre mental. Pour parler un peu comme les épistémologues, qui nous oblige à revoir la chose, comme si on serait passé du monde clos à l'univers infini. Vous voyez, selon la formule consacrée.
On va aller observer la pause terminée avec Georgia Online de Ray Charles, surnommé de Janus, chanteur et compositeur, un jeune pianiste américain, et né en 1930, il est mort en, je crois que c'est il est mort en 2004, c'est le 10 juin. Georgia Online, tiré de l'album de Janus, Hits. Georgia.
Said I'm Georgia. Georgia. A song.
L'indépendance d'Haïti est deux fois centenaire. Et dans le tumulte des discours et de l'actualité entourant cet événement, on aura souvent oublié qu'Haïti aura vécu pendant ce temps et que surtout une littérature riche de deux siècles se sera écrite, dite, chantée, proclamée, murmurée et même parfois lue. En marge ou en complémentarité des nombreuses activités scientifiques organisées dans le monde, en 2004, sur l'histoire, la mémoire ou la culture au sens large d'Haïti, ce volume est une invitation à lire, relire spécifiquement les 200 ans de production littéraire haïtienne. Là, je fais référence à « Relire l'histoire littéraire et le littéraire haïtien », un livre qui a été publié en octobre 2007 dans la collection Pensée critique des éditions Presse nationale d'Haïti. Là-dedans, il y a toute une pléiade d'auteurs, entre autres, je cite Deborah Johnson de l'université aux États-Unis, elle est enseignante aux États-Unis, Georges Castra, Bonnel Auguste, un texte de Max Dominique, de Regretté de mémoire, Gabriel Augustin, Nadev Ménard, Richard Watts, Faubert Bolivar, et j'en passe. Donc, une façon de vous dire qu'il y a des critiques, des universitaires, des chercheurs haïtiens et étrangers à avoir participé à la rédaction de cet ouvrage. Donc, Ralph Jean-Baptiste, venons maintenant un peu à la critique qui se fait en Haïti, la critique de la littérature haïtienne. Généralement, dans la critique, on fait souvent référence à
des chercheurs, des discours qui ont été construits sur la littérature, soit par des étrangers. Là, je peux citer Jean-Michel Dash, Léon-François Hoffmann, Christian Ndiaye, ou encore des chercheurs haïtiens toujours qui sont installés à l'étranger, par exemple Maximilien Laroche. Il y a Génère Desroches qui a fait un livre sur la littérature haïtienne, pour les Prolégomènes à une littérature haïtienne de la diaspora, Jean Jonassin et autres. Donc, ce sont là, en général, des discours qui ont fait autorité, des discours produits par des lecteurs, des critiques étrangers, dans une certaine mesure. Maintenant, il y a eu dans le temps, le professeur Max Dominique, qui a été un excellent critique, mais pourquoi, d'après toi, il y a aujourd'hui très peu de gens à s'être intéressés à la critique des textes, à la lecture des textes? Pourquoi il n'y a pas vraiment de discours de la part des critiques haïtiens à avoir fait autant d'autorité que celui, en gros, que ceux des critiques d'ailleurs?
Alors, à mon avis, il y a plusieurs façons de réagir, de réfléchir sur cette question. L'une de ces façons serait de dire qu'aujourd'hui, il existe un phénomène en Haïti dont on est quelque part conscient, c'est-à-dire que, comme on le dit un peu dans le langage de la presse, nous sommes en mode one-man show. Vous avez un pays où tout le monde a besoin d'écrire un livre, tout le monde a besoin de faire une chose, soit une fois, soit plusieurs fois, pour qu'il soit automatiquement vu, pour qu'on parle de lui à la radio, à la télévision, pour que dès qu'il est à une émission ou dès qu'il est dans un espace public, on le repère très facilement, très vite, et qu'on en dise grand-chose. Je crois qu'il y a cette perspective, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un problème de génération dans ce pays. Il se trouve simplement que le problème est mal posé. Petit frère, Robert et Myrline, vous qui êtes aussi jeunes que moi, il y a malheureusement le fait que ce problème est mal posé, mais il y a une inquiétude de ceux-là qui ont 40 ans, 50 ans à la limite, et qui, jeunes, quand ils étaient jeunes, aussi bien que nous, s'adonnaient à cette pratique qui était de lire, de travailler, d'essayer de proposer quelque chose de neuf. Il y a le fait que vous avez aujourd'hui des écrivains et à la limite des critiques, des journalistes littéraires aussi, vous le savez, pour qui le travail ne consiste pas tant à lire les textes, à essayer de s'ouvrir, comme le dit un peu Maximilien Laroche, qui fait une lecture d'Haïti, pour qui Haïti serait un pays de l'ouverture. Je le rejoins parfaitement sur cette question. C'est-à-dire que vous avez, étrangement, aujourd'hui, beaucoup plus de jeunes en termes de population, en termes démographiques. Étrangement, paradoxalement, vous avez un pays où il y a le plus de gens chez qui on observe un désintérêt réel pour la lecture, pour la connaissance, à part un quelconque intérêt qui viendrait dans cette sphère du fait que si j'écris Les Immortels, si je fais un quelconque roman, par exemple, moi je parle par exemple de Mackenzie Russell, qui est pour moi l'un des pires écrivains que ma génération puisse produire. C'est une catastrophe, mais pourtant, vous voyez que ce que Rodney Saint-Éloi en a dit, voyez ce que d'autres critiques qui sont en Haïti, à la limite un peu à l'étranger, disent de son travail. Vous voyez qu'aujourd'hui,
on dit que c'est un très bon travail.
Il y a par exemple aujourd'hui, et petit frère, vous allez être d'accord, le fait que l'écrivain haïtien, c'est quelqu'un c'est un voyageur, c'est quelqu'un qui voyage.
Mackenzie Russell l'a dit, il est revenu à la littérature, c'est pour pouvoir voyager.
C'est une grande tristesse qu'un journaliste qui est allé à l'école, pour qui ses parents ont dépensé toute une fortune. Moi, si ma mère ou mon père m'entendaient dire ça, franchement, ça aurait été la honte, mais vraiment une honte publique, pour dans la mesure où c'est la chose la plus évidente pour quelqu'un qui existe déjà comme individu et quelqu'un qui s'adonne à des pratiques professionnelles de vie, par exemple, travailler dans les métiers du livre. Je ne comprends pas que vous ayez aujourd'hui des écrivains pour qui c'est surtout ça le souci. Quand vous tombez sur des écrivains qui sont, il y en a parmi eux qui sont mes amis. Moi, quand je tombe par exemple sur une image, je suis bien obligé de lui dire que le texte qu'il a fait sur qui s'appelle Archel, etc.
Le poème de
ça, à mon avis, si je devais dire quelque chose qui vaille, si la critique pouvait jouer réellement de celui-là, je dirais que ça ne vaut vraiment pas la peine.
C'est un très bon poète créole, Inéma, je dis.
On a un peu à la poésie française,
parce que son livre, il est passé à côté.
Pourtant, moi, j'aime ce qu'il fait en créole. Par exemple, son premier texte.
Est-ce que tu sais, c'est Gide qui l'a dit au sujet de Dostoïevski.
Ouais.
C'est avec les bons sentiments qu'on fait de la mauvaise littérature.
Je
connais plein d'écrivains haïtiens et qui ont de très bons sentiments, qui voudraient faire de la littérature.
Là, par exemple, vous pouvez poser cette même question pour Gary Victor. Qu'est-ce qui se passe? Un texte de Gary sort, vous trouvez quelqu'un du Nouvelliste ou du Journal Le Matin ou de n'importe quelle presse parlée, télévisée,
qui sort
un papier sur le texte et qui le présente, qui essaie de dire que c'est Gary, encore une fois, Gary nous gave d'un autre roman qui est excellent et qu'il faudra qu'on lise. Et puis tout le monde se penche dessus, tout le monde se dit que ça doit être une très bonne chose puisque c'est du Gary Victor. Personne ne prend suffisamment de recul pour dire, mais écoutez Gary, je trouve que, par exemple, ça me fait penser à un ami qui me disait, cet homme, il doit être un assassin. Hein? Pourquoi il a toujours une chorale de sang dans ce qu'il fait? Bon, ça, c'est une lecture avec laquelle je ne suis pas nécessairement d'accord, mais qui essaie de travailler les propositions. Il y a quelqu'un qui est Seuf El Badawi, qui était venu au Centre Pen il n'y a pas longtemps, écrivain comorien, qui nous disait, qui nous racontait cette anecdote que Édouard Glissant ne pouvait pas digérer ce qu'un critique disait de lui. Je crois que c'était Romuald Fonquoy. En même temps, chaque fois qu'on lui demandait quel critique souhaiteriez-vous voir, dire quelque chose en termes de présentation d'une conférence, d'une causerie, etc., sur le travail que vous faites, il répond tout de go, Romuald Fonquoy. Parce que pour lui, Romuald, même s'il n'est pas d'accord avec lui, fait quelque chose sur son travail qui est sans parti pris. Ici, l'écrivain, il est ami avec il est ami avec le critique ici est ami avec l'écrivain, et même si l'on est ami, moi je ne vois rien de mal au fait qu'il puisse avoir de l'amitié entre des gens qui sont intéressés par les mêmes choses. Le pire, c'est de ne pas pouvoir prendre de distance par rapport à ce qui se fait. Je suis par exemple ami avec Petit Frère du Lemson, on a fait des études déjà à la fois au lycée Alexandre Pétion et à l'école normale supérieure. Il n'empêche, je peux dire à Petit Frère qu'aujourd'hui, il y a quelques années de cela, le poète haïtien de ma génération que je préférais, entre guillemets, c'était Watson, c'était Charles Watson. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Je me retrouve presque plus dans ce qu'il fait, même si je ne le lis plus. Mais je m'intéressais à la proposition de Watson d'après que la Terre s'en souvienne, évidemment, un texte coécrit avec
Hubert Charles.
Que l'on doit être en mesure de se dire les choses en face dans ce pays.
Mais pour revenir à cette question, au livre d'Inéma et de Mackenzie Orsay aussi, et moi je suis, comme tu dis, Ralph, je suis ami avec Inéma, je n'ai aucun problème, mais n'empêche que le dernier livre d'Inéma, Archel, le poème de son gauche est un livre qui a échoué dans la mesure où Inéma a fait une tentative. Moi, je comprends la tentative d'Inéma de jouer, d'aller dans la phrase, dans sa substance élémentaire, qui est peut-être de jouer avec la syntaxe, que Inéma ne maîtrise pas trop bien pour un premier texte en français. Et je suis complètement d'accord avec Petit Frère qui pense que le livre d'Inéma est un livre qui n'aurait pas dû paraître chez les éditions Rupture dans la mesure où il y a des coquilles, tout cela. Mais ce qu'il faut ajouter, c'est que il ne faut pas diaboliser la critique littéraire. La critique littéraire fait partie de la chaîne du livre dans la mesure où il faut l'existence de la critique littéraire pour que les éditeurs prennent au sérieux le travail d'édition, pour que les auteurs prennent au sérieux leur travail. Parce que comment voulez-vous que je dise Inéma soit et l'ami de Lionel Trouillot, et qui publie un livre avec des fautes d'orthographe. Moi, je me demande, est-ce que Lionel a lu le manuscrit d'Inema? Ça, c'est là mon problème.
Je voudrais tout de suite réagir, si tu permets, Robert, pour te dire que je ne comprends pas ce que tu dis. C'est-à-dire que Lionel n'aurait pas pu faire les mêmes erreurs que Inema a soi-disant fait. Je n'aime pas cette perspective de surplomb. Je crois que on aurait pu se poser ainsi le problème en disant, est-ce que Inema n'a pas été voir Weber Charles ou Petit Frère ou encore Mirlim? Moi, je ne pense pas qu'il y a quelque chose. Vous savez, bon, c'est très compliqué aujourd'hui. Vous avez une société et un espace littéraire en Haïti qui fonctionne à la Lionel Tour. C'est Lionel qui a dit, c'est Lionel qui a fait, c'est Lionel
l'écrit.
Vous savez que Lionel,
c'est le colosse.
Vous avez des formules du genre. Vous savez qu'il est un très bon écrivain, Lionel Trouillot. Écoutez, Lionel, je ne comprends pas cette bêtise. C'est-à-dire que je pense que Lionel est un écrivain et qu'il fait un travail que l'on a intérêt à apprécier pour ce qu'il est. Et qu'on n'a pas à aller voir un peu plus loin. Sinon, qu'est-ce qu'on aurait dit de Jean-Claude Fignolet? Qu'est-ce qu'on aurait dit, par exemple, de l'auteur de Ferdinand, Je suis à Paris? Ce sont parmi les plus grands écrivains, je le regrette, ce sont aujourd'hui encore parmi les plus grands écrivains que ce pays ait connu.
Voilà, Ralph, on a beau dire sur la critique littéraire, mais on va devoir revenir dans une prochaine émission parce que Barthes, dans Essai critique, il nous dit que la tâche de l'écrivain, en fait du critique, n'est nullement de découvrir des vérités, mais seulement des validités. C'est aussi une façon, en fait, selon moi, c'est rejoindre un peu Gide qu'il disait à propos du Dostoïevski, que ce n'est pas avec, que c'est avec des bons sentiments qu'on fait de la mauvaise littérature. Donc, les œuvres haïtiennes, les textes littéraires haïtiens, il y en a de très bons, tout comme il y en a de très mauvais. Par exemple, récemment, Weber Charles a fait un texte sur À l'angle des rues parallèles et de Gary Victor. Un roman, bon, je ne vois pas vraiment le pourquoi de ce livre, à quoi ça sert, un roman comme À l'angle des rues parallèles. À côté de cet excès de l'imagination, l'histoire, on n'arrive pas à servir l'histoire, mais on se dit à la fin du livre, qu'est-ce que Gary a voulu faire avec ce livre? De même, on peut prendre l'exemple de Les prisonnières d'un rêve, qui n'est pas un livre réussi. On peut comprendre que c'est le premier coup d'essai de la vie de Stéphanie Balmire. Il y en a d'autres. On va revenir à une prochaine émission sur la littérature, la critique de
rêve. Je souhaiterais bien.
De même, le texte de Lionel, qui a été l'objet d'un texte, d'un article, d'une licence critique, très critique. Je vais parler de La belle amour humaine, de Weber Charles. Moi aussi, une fois, j'ai fait un texte sur le livre d'Alex Laguerre. Ça m'a tourné. Et le monsieur, il m'avait même dit qu'il allait me casser la gueule pour cette histoire. De même pour Weber Charles sur les 100 SMS d'amour que la Direction nationale a publié, qui est le dernier supplice en plus, mon Dieu, a fait l'éloge pour dire que c'est un livre réussi et que la BNL a accepté de financer une saloperie pareille. Donc voilà, et mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terminus de l'émission. Merci de nous avoir prêté l'oreille. Merci aussi à Ralph Jean-Baptiste qui a accepté de répondre à notre invitation.
Merci Petit Frère, merci également à Weber, Mirlin, merci au staff de Livre Neuf, merci de m'avoir invité à cette émission. J'espère qu'il y aura d'autres possibilités, d'autres occasions pour que nous puissions continuer à discuter de livres neufs, j'espère, et notamment de livres de littérature, de critique littéraire, et qu'il y aura un peu plus de temps pour ces prochaines occasions. J'en profite pour dire un dernier mot, pour dire donc que j'espère que l'avènement de la littérature haïtienne, comme le dit un peu Maximilien Laroche, il y a une formule comme ça que j'adore, je crois que l'avènement de la littérature, l'avènement de ce qui peut être haïtien réellement dans ce pays, est conditionné ou encore est fonction de ce que les gens apprennent à comprendre, qu'il leur faut prendre des distances par rapport à ce qu'ils entretiennent entre eux comme rapport pour s'évaluer, pour se juger, pour se dire des choses, sans surenchérir dans l'invective ou tomber dans les basistes, jusqu'à les flatter.
Voilà, et merci Jean-Baptiste, et nous excusons auprès de nos auditeurs qui nous ont envoyé des questions par SMS et qu'on n'a pas eu le temps de vous poser là. J'espère que c'est...
Ce sera le
et c'est Stéphane et Cécile qui...
Dans une prochaine émission, on aura la possibilité de revenir sur ces questions. Donc je rappelle que Verrette à la découverte du livre, c'est pour les 11, 12, 13 avril 2014. Et la troisième édition de Verrette à la découverte du livre. Et Marie Alistair sera en signature à l'Institut haïtien américain le mercredi 9 avril et à partir de 9h. À la technique, Williams Joseph, présentation signée Williamson Petit Frère, Weber Charlene et Pierre. Je rappelle que Livre Neuf est une émission proposée par Radio Magique Neuf et la revue Lègue et Littérature. Rendez-vous dimanche.